Mais d'abord, cette histoire, donc, d'un homme de la Mauricie, complotiste, qui a été arrêté avec une arme d'assaut, beaucoup, beaucoup de munitions, 13 bombes artisanales. Il s'appelle Martin Clermont et son frère René a bien voulu nous parler. Je tiens à donner le crédit à Félix Séguin, Hugo Jonca et Andrea Valeria qui ont rendu public donc cette histoire. J'ai parlé donc avec René Clermont, le frère de Martin Clermont, un peu plus tôt ce matin. Bonjour, Monsieur Clermont.
Bonjour.
Alors, votre frère s'appelle Martin, 45 ans. Parlez-nous de votre frère un petit peu.
Mon frère, ça fait longtemps qu'il aime les choses de survivalisme et ces choses-là. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'ils vont dire que c'est un complotiste. Dans le fond, c'est la réalité, mais... En même temps, lui, ce qu'il avait peur, c'est le vaccin, puis les choses qui s'en venaient, il disait qu'on était contrôlés, puis toutes ces choses-là. On pourrait en dire une liste longue, là. Mm. Mais ça, moi, je disais, je regarde, ça, c'est tes choix, c'est tes idées, mais je dis, regarde, ton opinion, moi, je la respecte, puis chacun a son opinion, on a le droit de notre opinion, mais là, je laisse aller ça, puis là, à un moment donné, il est arrivé à une affaire, ce qu'il a dit à quelqu'un de sa famille, quelque chose qui a eu peur, pour la sécurité de son jeune enfant, tu sais, qui vous disait qu'il voulait partir avec dans le bois. Là. Puis là, ben nous autres, vu qu'on se doutait que peut-être qu'il y avait des armes, mais moi, j'étais pas au courant s'il n'avait pas, mais...
Vous avez appelé la police, René? Vous avez appelé
non,
la police?
Non, moi, j'ai pas appelé la police.
Non?
Moi, j'ai juste continué ce que quelqu'un d'autre avait commencé, que dans notre famille, mm-hmm. qu'il avait appelé la police parce qu'il avait peur pour la sécurité de l'enfant. Dans le fond, il n'avait pas peur que Martin fasse du mal avec ses armes parce qu'on savait même pas s'il n'avait ou pas. Mais on avait peur parce qu'on pensait que peut-être qu'il n'aurait des armes parce qu'il n'avait déjà eu avant. Mm. Puis là, ben, en sachant qu'il voulait partir avec son fils dans le bois, puis sans laisser de traces, on avait peur pour la sécurité autant de Martin que pour son enfant. Mm. Fait que là, on a dit, bon, faut faire quelque chose. Puis si on dit à Martin, mais là, faut t'arrêter, on comprend bien qu'il n'y a sûrement pas arrêté parce qu'on peut pas faire ça en édité de même, tu sais. Fait que là, la seule solution qu'on a trouvée, avec le triste, la tristesse qui vient avec, parce que personne voulait qu'il s'en aille en prison non plus, là. Mm. Mais c'est ça qu'on a fait, parce qu'on avait comme un choix à faire, puis on a un choix difficile. Puis on a fait le choix qu'on pensait le meilleur à faire pour la sécurité de tout le monde.
Pourquoi il voulait s'en aller dans le bois avec son gars? Il a quel âge son gars, d'ailleurs?
8 ans, je pense.
8 ans, OK.
Ouais, fait que je me suis dit, tu sais, peut-être qu'il n'y aurait rien arrivé de grave. Mais tu sais, c'est en sachant qu'il y a des armes, puis qu'il s'en va dans le bois avec ça, puis que si jamais il laisse pas de traces, puis qu'il arrive de quoi dans le bois qui est mal pris, puis qu'on ne sait pas où ce qu'il est, qu'est-ce qu'on va faire après.
L'arrestation, étiez-vous là?
Oui, on était chez nous, on a vu les policiers arriver, oui.
Donc vous avez assisté à l'arrestation de votre frère?
Ben, moi, j'ai pas vu mon frère embarquer, mais j'étais dans la maison, on voyait les chars arriver, là, puis on les a vus évacuer les personnes qui étaient dans la maison, mais Martin, lui, quand il l'a embarqué, je ne l'ai pas vu parce qu'il devait être proche de la porte. Là.
Mais c'est les policiers qui ont trouvé les bombes artisanales dans le garage.
Oui, c'est ça. C'est eux autres qui ont trouvé ça. Ouais. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça.
Est-ce que ça vous a surpris, inquiété? Comment vous avez...
Ça m'inquiétait pas non plus, puis ça me surprenait pas parce que, là, bien longtemps, il en faisait des petits pétards. Là. Mais tu sais, c'était pas des bombes dangereuses, mais c'était des pétards pareils. Là. Puis, dans le fond, c'était des pétards juste pour s'amuser qu'il faisait. Mais sauf que là, je savais pas que c'était des choses comme ça qu'il y avait. Là.
Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces bombes-là, vous pensez?
Ben, moi, je sais pas ce qu'il voulait faire avec, là, mais je sais que dans le cours, il a dit que c'était pour son survivaliste, que si jamais il voulait faire des trous dans la glace, des choses comme ça. Là. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il voulait faire en réalité, je sais pas. Là.
Pensez-vous que votre frère aurait pu poser des gestes de violence?
Non, et mon frère, c'était pas de la violence qu'il voulait, c'était juste de la protection pour ses enfants.
Oui. Est-ce qu'il prend des médicaments, votre frère?
Oui, il prend une médication, vu qu'il est bipolaire.
Est-ce qu'il consommait aussi?
C'est toutes ces choses-là qui faisaient qu'on était inquiète, parce qu'on le voyait, on ne savait plus s'il prenait sa médication. Mm. On voyait qu'il dormait plus, puis qu'il consommait des drogues. Au début, il fumait juste du cannabis, mais en dernier, on ne savait plus ce qu'il prenait. Puis que là, avec tout ce qu'il voyait sur Internet, il ça virait pas mal dans sa tête, puis il s'inquiétait beaucoup avec ça. Donc, il se préparait pour quelque chose, pour se préparer en cas qu'il arrive quelque chose.
Quel genre de drogue il prenait? C'était des drogues plus dures vers la fin, vous dites.
Oui, il commençait avec des drogues dures, mais je ne sais pas c'est quoi qu'il prenait. Là.
Mais c'était du chimique. C'était du chimique, c'est ça?
Oui, du chimique. Puis rendu là, tu sais, c'est quoi qui se passait, je ne sais pas. Mm. Je sais qu'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui circulait, puis ça m'a, je l'ai vu récemment qu'il y avait du monde qui consommait là. Mais ça, tu sais, ça, je me dis, bah, c'est leurs affaires. Mais quand c'est rendu que c'est la vie d'un enfant qui est en danger, c'est là qu'on a vu qu'il fallait intervenir.
Là, ce que j'ai lu, c'est qu'après son arrestation, il a été remis en liberté sous certaines conditions, là, notamment de ne pas consommer de drogue, justement, là, puis de remettre ses armes à la police. Ouais. Mais ça ne l'a pas empêché de retourner ses réseaux sociaux. Là. Il a dit, je le cite, là, à tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui viennent me le dire en pleine face. Puis là, il parlait des merdias, puis tout ça. On dirait qu'il, c'est comme s'il ne comprenait pas le sérieux de la situation dans laquelle il se trouve là, après son arrestation. Là.
Oui, ben je pense qu'il comprend que des armes, c'est pas légal, mais lui, pour lui, c'est comme c'était comme une mission pour lui de protéger sa famille.
Quand il a vu les événements du Capitole, est-ce qu'il a eu peur, lui? Est-ce que ça l'a fait réagir, là, l'assaut là, du Capitole?
Moi, je sais pas comment il réagissait face à ça, parce que je ne parlais pas beaucoup. Dans le fond, moi, je le voyais juste parce que c'est mon locataire. Mm. Je le voyais pour le loyer, puis c'est tout. Bien, je laissais faire sa vie.
Dans le papier de Félix Séguin, Hugo Jonca puis Andrea Valeria dans le Journal de Montréal, apparemment, à un moment donné, il disait qu'il recevait des messages des extraterrestres.
Oui.
Il vous a dit ça?
Ça, il me l'a dit une fois, ça. Oui. Il m'a dit, tu reçois ça, toi, tes messages extraterrestres, ton répondeur? Bien, j'ai dit non. Bien, il dit, moi, j'en ai reçu. J'en ai reçu un. Hein. Ah, bien, OK. Bien, j'ai dit, moi, tu as le droit de croire aux extraterrestres si tu veux. Ben, on parlait des choses comme ça. Je dis, t'as le droit de croire ce que tu veux. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal quand il me disait des choses comme ça. Mm. Je me suis dit, c'est peut-être la drogue qui fait faire ça, la psychose, quelque chose de main. On ne sait pas, tu sais, ce qui se passe dans sa tête. Mais là, à un moment donné, il venait même me voir d'un fois, puis il me disait, il dit, tout le monde m'a dit que je fais une psychose. Ben, dans sa famille, peut-être qu'il disait ça. Puis là, ben, il dit, en tout cas, il dit, c'est juste ça, tant mieux. Mais il dit, si c'est vraiment qu'il arrive de quoi de grave avec le gouvernement puis tout, ben il dit, moi, je vais être prêt. Puis là, j'ai pas reparlé après. Puis c'est là que, après, j'ai su par quelqu'un d'autre qui avait dit à quelqu'un dans la famille que son fils, c'était l'élu, puis que c'était le futur Messie, puis qu'il voulait s'en aller avec. Fait que la personne, quand elle a entendu ça, elle a eu peur, c'est là qu'elle a appelé la police. Puis qu'après ça, j'ai eu des nouvelles de ça, puis que là, moi aussi, j'ai collaboré avec la police parce qu'on savait plus quoi faire. C'était la seule solution.
Mmh. Y avez-vous reparlé depuis son arrestation?
Oui, j'ai pas parlé personnellement parce que je ne voulais pas trop embarquer là-dedans pour être en chicane avec. Parce qu'on a tout le temps des idées différentes puis qu'on avait de la difficulté d'une fois de se parler calmement. Mmh. Mais sauf que quand il est arrivé, qu'il est revenu de là-bas, moi, c'est le journaliste qui m'a dit qu'il venait d'être libéré, qu'il s'en venait. Fait que là, quand je l'ai croisé, il m'a parlé. Puis là, ben j'ai dit en tout cas, j'ai dit, maintenant, on s'en reparlera, tu comprendras peut-être la vraie histoire. Fait que là, il m'a dit quelque chose que j'ai pas aimé, mais je le comprends parce qu'il était choqué à cause de son arrestation.
Pourquoi?
Ça, un maudit visage à deux faces. Fait que j'ai pas aimé ça qu'il me dise ça, mais d'un côté, je le comprends parce que c'est comme si je l'avais trahi en le dénonçant.
Ah oui, je comprends. C'est pas évident, hein? C'est pas évident d'énoncer un membre de sa famille, hein, M. Clermont, je veux dire.
Non, c'est pas évident, puis ça nous a fait bien de la peine quand on a fait ça, parce que on voulait pas qu'il y ait en prison, mais c'était la seule solution pour essayer de l'aider, dans le fond. Mm. Pour aider, puis en même temps, sécuriser la famille, puis tout, puis c'est sa famille à lui, là.
Je pense que vous avez fait ce que vous deviez faire, René Clermont.
Ses amis, il y en a qui m'ont dit que c'était la chose à faire, puis d'autres, ben, qui comprennent pas, mais ça, ils sont pas... On peut pas essayer de faire comprendre tout le monde, mais ceux qui comprennent, je suis bien content. Mm. Puis ceux qui comprennent pas, ben regarde, ça, c'est leur problème, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Pensez-vous qu'il peut s'en remettre? Pensez-vous qu'il peut, s'il est soigné?
Ben, moi, je sais que Martin, il est très fort, puis que c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des méchancetés à lui par rapport à ce qu'ils ont vu dans le journal. Puis moi, j'aimerais ça, justement, que tout le monde sache la vraie vérité pour qu'il arrête de dire des choses, parce que ça peut le déprimer encore plus, puis donner un peu de misère à s'en sortir.
Mais vous pensez qu'il peut s'en sortir, oui?
Oui, je pense qu'il peut s'en sortir. Ça veut pas dire qu'il arrêtera jamais le pot et ces choses-là, mais peu importe. Pour l'instant, il est interdit pour lui de prendre du pot ou quoi que ce soit. Là. Puis rendu là, ça va être son choix à lui de faire la vie qu'il veut. Mais nous autres, notre priorité, c'est sa santé à lui, puis aussi la sécurité de ses enfants.
C'est sûr. René Clermont, frère de Martin Clermont, merci beaucoup pour l'entrevue. Bon courage avec vous et toute la famille, M. Clermont.
Hein? Ben, merci beaucoup. Bonjour.
OK, Luc, t'es là?
Oui, Bernard. Ils lui ont sauvé la vie, hein, essentiellement.
Ben, je pense que oui. Je pense qu'il a besoin d'être soigné, là. Mais en même temps...
En fait, c'est un cas qui n'a pas grand-chose à voir avec la COVID comme telle. C'est un gars qui souffre de bipolarité, qui a été diagnostiqué. Et la bipolarité est une maladie épouvantable. J'ai connu ça dans ma famille. C'est vraiment une maladie épouvantable. Cet homme, là, qui a été arrêté hier, devait souffrir, devait vivre une souffrance profonde. Et comme très souvent les bipolaires font, à un moment donné, ils cessent de prendre leur médication parce qu'ils s'ennuient du high, tu comprends? Et là, quand ils s'en vont dans ça, là, ils deviennent extrêmement dangereux.
Pour eux-mêmes
et pour les autres, tu sais. Ouais, parce qu'ils rentrent, à un moment donné, ils rentrent dans une psychose, puis c'est complètement hors contrôle. Et la souffrance qui accompagne ça est incroyable parce que après cet épisode de high, il tombe dans la dépression, puis là, ça devient suicidaire et tout ce qui vient avec.
En même temps, Luc, moi, je me pose la question, parce que tu sais, on s'entend, là, je veux dire, quand t'es rendu, là, que tu t'achètes des armes automatiques, que tu fabriques des bombes, si tu tombes dans un down où tu te sens menacé, où tu penses que la fin du monde est arrivée, tu peux devenir dangereux, pas juste pour toi, tu peux devenir dangereux pour les autres.
C'est clair, mais là, ce qu'il vivait devait être un high, là, présentement. Tu sais, là, il devait être complètement survolté, ses idées devaient, tu sais, ça roule dans le cerveau à 300 km/h. C'est extrêmement souffrant, cette pathologie-là.
Il faut faire attention, évidemment, pour ne pas généraliser, mais je me pose la question, on sait là, que la COVID crée beaucoup d'anxiété, puis ça fait de monter en flèche les cas de problèmes de santé mentale. Je ne sais pas jusqu'à quel point... Je sais pas jusqu'à quel point les adeptes du complotisme qui voient des complots partout, tout ça, je ne sais pas jusqu'à quel point il n'y a pas... Quel est le pourcentage de ces personnes-là qui... ont d'une manière ou d'une autre un problème de santé mentale. Je me pose la question. Faut faire attention, là, mais honnêtement, Luc, là, je me pose vraiment la question.
Ben moi aussi, puis c'est normal qu'on se la pose maintenant. Un problème de santé mentale, ça veut dire quoi exactement?
Ouais, ben c'est ça.
Parce qu'on est dans une zone, là, c'est pas comme avoir la rougeole, là. Tu sais, c'est une maladie mentale, ça se voit dans les yeux d'un autre. La normalité est définie par qui? Mais évidemment, quand je vois des gens qui croient n'importe quoi, je me dis, si c'est pas une maladie mentale, je sais pas ce que c'est.
On va continuer à réfléchir à ça. On se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
Parce qu'après la pause, on va parler avec la Dr Quash, qui sera responsable de deux projets pilotes dans deux écoles de Montréal. Puis ils vont tester les tests rapides, les tests de dépistage. Vous savez, là, ceux dont on parle depuis un bout, on a 2,5 millions de stockés, on n'a presque pas utilisé. Et là, ils vont les déployer dans deux écoles. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'idée? Est-ce que c'est éventuellement de pouvoir les déployer dans toutes les écoles? Enfin, c'est une question. On va la poser à Mme Quash, Dr Quash, après la pause.